Imaginez que vous êtes avec Jésus la nuit où il est livré pour être jugé, pour être crucifié. Vos ennemis vous cernent de près. L'heure approche. Jésus va vous laisser et vous allez vous retrouver tout seul, émotionnellement et spirituellement, dans le noir. Jésus, votre ami, votre maître, votre Seigneur, va mourir. Comme vous, tous les autres disciples vont fuir. Peut-être que les autres autorités vous rattraperont aussi. Peut-être que vous serez le seul disciple encore vivant, vous, tout seul. Vous avez raison d'avoir peur, n'est-ce pas? En tant que disciple de Jésus, vous avez passé plusieurs années auprès de Dieu le Fils, mais maintenant le Maître va partir. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous identifier complètement aux disciples de Jésus. Mais le fait qu'ils avaient besoin d'un guide, ça peut s'appliquer tout à fait à nous. Un guide dans la vie. Que faire donc quand on n'a pas de guide, pas de direction? Un guide, quelqu'un qui nous rassure, quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous aide. Nous avons probablement tous déjà demandé à Dieu d'éclairer notre chemin, ou d'éclairer notre avenir, ou de nous diriger vers la bonne voie. Nous avons tous besoin d'une boussole spirituelle, morale et relationnelle. Heureusement pour nous, Jésus ne nous a pas laissés tout seuls. Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer le consolateur ou le défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Après être monté au ciel, Jésus a envoyé le consolateur qui demeure parmi nous et en nous, les chrétiens. Dans l'évangile selon Jean, il y a deux textes en particulier où Jésus parle précisément de l'œuvre du Saint-Esprit, à savoir le chapitre 14 et le chapitre 16 de Jean. Donc on va traiter le chapitre 14 la semaine prochaine, donc on fait la deuxième partie avant la première partie, donc c'est le chapitre 16 aujourd'hui. Donc on va lire en fait les versets 5 à 15, Jean chapitre 16, 5 à 15. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il vous l'enverrait. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons que ta parole est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, qu'elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Seigneur, parle à nous à travers ta parole ce soir. Sois glorifié par cette étude, Seigneur. Illumine le sens de ce texte pour le perfectionnement de tes enfants. Au nom de Jésus, amen. Alors, que faire quand on est tout seul, sans guide spirituel? Peut-être que vous avez vu le film La Route. Vous connaissez ce film La Route qui raconte une histoire qui se déroule dans un avenir proche, dans un monde qui a été dévasté par une catastrophe quelconque. Et pendant toute la durée du film, on voit un homme et son jeune fils qui marchent le long d'une route. au milieu d'un paysage complètement vide. Chaque scène évoque le désespoir, un désespoir qui ne fait qu'empirer. Le ciel est couvert et gris, la terre est grise, leurs vêtements sont gris, l'homme et son fils errent sur cette route pleine de dangers avec un seul but, celui d'atteindre la mer, qui est également grise et sans vie. Quelle horreur, n'est-ce pas? C'est déprimant ce film. Quel désespoir. C'est déprimant d'imaginer une vie comme ça. Mais ça illustre encore une fois la situation des disciples face au départ de leur maître, le Seigneur Jésus. La peur d'être tout seul dans la vie, sans guide, sans ami, sans consolateur, sans direction, sans but, sans espoir. Personne ne veut être tout seul et abandonné. Dans les chapitres précédents de Jean, les disciples ont demandé à Jésus « Où vas-tu ? Où vas-tu ?» Ici, Jésus leur rappelle la question. Non pas parce que les disciples s'intéressent beaucoup à la destination de Jésus, mais parce qu'ils sont attristés par son départ. Leur vraie question pour Jésus est « Pourquoi t'en vas-tu ? » On a l'impression que c'est plutôt ça. Pourquoi t'en vas-tu? Pourquoi vas-tu nous laisser quand on a besoin de toi, Seigneur? Voilà le problème auquel les disciples de Jésus font face avant sa crucifixion. Mais la première chose que Jésus leur promet est un nouveau départ, un nouveau départ. Le Fils doit partir pour que l'Esprit vienne. Jésus dit, il est avantageux que je parte. Autrement dit, regardez la situation dans son ensemble. S'il n'y a pas de crucifixion, il n'y aura pas de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y aura pas de venue du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de venue du Saint-Esprit, il n'y aura pas d'Église qui entraîne le salut des nations, qui entraîne le retour du Fils glorifié, qui entraîne l'accomplissement de toutes choses et la fin de tout mal. Le départ de Jésus est une étape malheureuse, provisoire, dans une histoire beaucoup plus grande que ce qu'on imagine de notre point de vue limité. Si on regarde le plan de Dieu comme la construction d'un bâtiment, on verra mieux comment les choses sont faites par étapes. Je vais prendre un exemple de l'Écriture, en fait. La Bible parle de Christ comme une pierre angulaire, comme du fondement de l'Église, n'est-ce pas? Et de la même façon que la fondation d'un bâtiment et la partie la plus importante qui constitue la base de ce qui vient après, Jésus aussi est le fondement de l'Église. La mort et la résurrection de Jésus ont établi et fondé la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, pour que par la foi en lui, les croyants de toutes les nations fassent partie du peuple de Dieu qui est l'Église. La mort et la résurrection de Jésus ont rendu possible la construction de l'Église. Le fondement n'est pas la fin de la construction, vous voyez? Le bâtiment construit par Jésus, sur Jésus, se compose des croyants, l'Église, sous la direction du Saint-Esprit. Jésus est venu pour préparer le terrain, pour poser les fondations, comme nous dit 1 Pierre chapitre 2, ou Romains chapitre 9 par exemple, ou Éphésiens chapitre 2, parmi plusieurs autres textes dans la Bible. Et la Bible nous donne cette illustration parce que nous pouvons comprendre facilement. Nous avons tous vu des bâtiments qui sont construits dans notre quartier. Si l'équipe qui pose la fondation n'a pas fait son travail, l'équipe qui construit les murs et le toit sera coincée, n'est-ce pas? Pour que le reste du bâtiment soit construit, ceux qui posent la fondation doivent venir en premier, faire leur travail et partir. De même, Jésus rappelle à ses disciples qu'il doit partir pour que l'Esprit vienne. Dieu ne nous laisse pas sans direction et sans guide. Pour que le bâtiment qui est l'Église soit construit, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit œuvrent dans une parfaite harmonie pour réaliser le plan de Dieu pour son peuple. Jésus rassure les disciples sur le fait que oui, son départ sera triste. Mais dans le plan souverain du Père, la suite ne sera pas réalisée si Jésus reste. Les travaux ne sont pas encore finis. Jésus rassure ses disciples en leur disant que dans les moments difficiles de notre vie, les travaux ne sont pas encore finis. Il faut attendre pour que la tristesse se transforme en joie. Comme ce que dit Jésus au verset 20. On n'a pas lu ce verset, mais il dit la tristesse sera changée en joie au fur et à mesure que le plan de Dieu se réalise. Dieu ne nous laisse pas sans direction, sans guide. Il nous laisse, en fait, son esprit, qui est une grâce, qui nous révèle et qui nous convainc des vérités de notre condition déchue et de notre besoin d'un sauveur, un sauveur plus fort que nous. Le texte nous présente un personnage qui s'appelle en grec le Parakletos. Le Parakletos, ou celui qui encourage, celui qui exhorte. Et le mot Parakletos, en grec, est traduit par consolateur, ou défenseur, ou guide, en français. Et ce consolateur convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, selon le verset 8. Mais qu'est-ce que ça veut dire de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement? Ce que je vous propose, c'est de comprendre la justice du monde et le jugement du monde dans un sens péjoratif. Ce que je vais dire, c'est que la justice et le jugement qui appartiennent aux gens du monde ne sont pas en réalité justes. Vous voyez l'ironie ici. La justice du monde a abouti à la mort injuste de Jésus. Les autorités religieuses qui pensaient protéger la justice étaient en réalité les plus grands hypocrites qui ont tué leur propre sauveur. Comme on le voit dans Ésaïe chapitre 64, tous leurs actes de justice étaient comme des objets impurs et comme des vêtements pollués. Il n'y a pas de justice plus injuste que notre propre justice en tant qu'être humain quand on est privé de la grâce de Dieu, vous voyez? Notre justice corrompue entraîne logiquement un jugement corrompu. En l'occurrence, un jugement contre Jésus. Le jugement du monde est un jugement contre Dieu. C'est un jugement pervers, basé sur les mensonges du diable et qui a des conséquences funestes pour nous. De même que le péché est évidemment mauvais, eh bien la justice et le jugement qui appartiennent au monde soient également corrompus et mauvais. Le consolateur expose donc la corruption du monde pour que le monde reçoive la vraie justice et la vraie grâce de Dieu. Et c'est ça qui est important ici. L'idée générale, c'est que c'est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, d'exposer le péché et de convertir les gens. L'Esprit Saint révèle des réalités spirituelles qu'on ne voit pas normalement de nos propres yeux. L'œuvre de Saint-Esprit dans ce monde est une grâce, en fait. C'est une grâce de Dieu qui vise à exposer le péché, à restreindre la corruption du monde et à pointer les gens vers Jésus. Il nous montre toutes les choses que nous ne voyons pas à cause de notre cécité spirituelle. Il agit comme microscope qui ouvre nos yeux à tout ce que nous ne voyons pas sans lui. Son travail n'est pas si étrange. On comprend comment ça marche, des microscopes. Dans le monde matériel, les microscopes remplissent la même fonction. Ils nous montrent ce qu'on ne voit pas par nos propres yeux. Savez-vous en fait que la Bible que vous avez entre les mains est couverte de milliards de bactéries? Savez-vous qu'il y a plus de bactéries sur votre téléphone portable que sur les leviers de chasse d'eau dans les toilettes publiques? Savez-vous qu'il y a plus de bactéries sur votre voisin que sur une cuvette de WC, même après que ces WC ont été utilisés par le pasteur Alex? J'ai pas dit ça, non. C'est une blague ratée. Mais en tout cas, vous voyez, il y a des réalités qui existent dans notre monde, mais qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Il y a des réalités qu'on ne voit pas dans notre monde. On a besoin du Saint-Esprit. La fonction du Saint-Esprit est d'exposer le péché d'un côté et de révéler la vérité de l'autre côté. Ce thème se trouve tout au long du récit de l'évangile selon Jean. Jésus est décrit comme une lumière qui expose le mal et qui éclaire le chemin des croyants. Dieu ne nous laisse pas sans direction, sans guide. L'Esprit parle avec vérité en révélant ce que nous ne voyons pas de nos propres capacités, comme j'ai dit. On voit dans la Bible que c'était après la résurrection de Jésus que les disciples ont commencé à comprendre le sens de la mort de Jésus. Mais c'était après la résurrection. Ils n'ont pas compris avant. C'est l'Esprit qui leur a révélé ces choses. Si vous voulez comprendre l'origine du Nouveau Testament, il suffit de lire les versets 12 et 13 de Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit a conduit les disciples dans la vérité. Il a révélé la vérité de Dieu en rappelant aux disciples tout ce qu'ils avaient besoin de savoir pour mettre les paroles de Dieu par écrit et pour nous guider dans l'interprétation de ces paroles. Jean chapitre 16, versets 12 et 13, et Jean chapitre 14, versets 24 à 26, constituent cinq versets très, très importants, très pertinents pour le christianisme au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle que Dieu ne nous laisse pas sans direction, que Dieu est l'auteur de l'Écriture, que tout ce qui est révélé par Dieu est véridique, et que c'est lui qui donne sens au texte et pas nous qui donnons sens au texte. À chaque époque, l'Église fait face à des théologies, à des philosophies néfastes qui corrompent l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église fait face à quelque chose qui s'appelle l'herméneutique philosophique postmoderne, qui essaie de nous convaincre tout simplement que l'autorité de l'auteur du texte est révoquée et que c'est au lecteur, c'est à nous, d'imposer un sens au texte selon notre communauté d'interprétation. Et selon cette idée, il n'y a pas une vérité invariable à l'écriture. En fait, il y a plutôt plusieurs petites vérités fluides qui changent au fil du temps selon les caprices de la culture. Ce que pense la majorité détermine ce que pense Dieu, selon cette philosophie. Et c'est dans des églises aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans ce texte? Il dit au verset 13, « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, une vérité éternelle qui vient du Père. » Cette vérité ne change pas. Elle ne dépend pas de nous. Dieu ne nous laisse pas sans direction, sans guide. Jésus est le chemin. On voit ça en Jean chapitre 14. Jésus est le chemin. Le Saint-Esprit est la carte, dans un sens, et le Père est l'ingénieur qui a rendu tout cela possible. Moi, j'ai une voiture que j'aime beaucoup, une belle Citroën C4 Grand Picasso qui est parfaite pour ma famille de 6 personnes. Et cette voiture est équipée d'une radio qui a une femme dedans qui me donne des indications sur la route, pour la route. Je crois que ça s'appelle un GPS ou quelque chose comme ça. Mais j'aime cette femme qui habite dans ma radio parce qu'elle m'aide à naviguer dans les rues illogiques de Lyon. Elle me rassure avec sa voix sensuelle en me disant qu'elle ne va pas me laisser tout seul, qu'elle va me guider vers la bonne destination. Et de même, c'était peut-être une mauvaise illustration aussi, mais de même, Dieu ne nous laisse pas sans direction, n'est-ce pas? Il nous donne Jésus-Christ qui nous a rachetés par sa mort à la croix, qui nous a sauvés des conséquences de nos péchés. Il nous a laissé son esprit qui nous appelle à la foi en Jésus, qui nous dirige pour que nous mettions en pratique l'enseignement de la Bible. Dieu ne nous laisse pas sans direction, sans guide. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous cherchez un guide, vous cherchez un consolateur qui va vous aider à traverser votre avenir incertain. Nous avons tous demandé à un moment ou à un autre Où vas-tu, Jésus? Pourquoi t'en vas-tu? Nous avons tous demandé, est-ce que je dois traverser cette difficulté tout seul? Mais qu'est-ce que Jésus promet à ses disciples? Le verset 20, encore une fois. Votre tristesse sera changée en joie. La joie du salut par la foi en Jésus. La joie de la vie éternelle dans sa présence. La joie de savoir que le Seigneur est là malgré ce que nous traversons. Par la foi en Jésus, par la présence de son Esprit en nous et par la communion fraternelle qui est dans l'Église de Jésus, notre tristesse peut se transformer en joie. Notre solitude et notre isolement peuvent se transformer en relations réconfortantes. Notre manque de direction et d'orientation peut se transformer en guidage divin. Jésus n'a pas abandonné ses disciples. Et il ne nous abandonne pas non plus. Dieu ne nous laisse pas sans direction, sans guide. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette espérance, l'espérance que tu nous donnes par l'œuvre du Saint-Esprit dans ce monde. Tu ne nous as pas abandonné. En revanche, tu nous as laissé le Consolateur, le Défenseur, celui qui nous guide. Saint-Esprit, tu nous connais parce que tu habites en nous. Œuvre alors en nous. Transforme-nous par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.